Annie, bonjour Emeline.
Bonjour Manon.
Bienvenue dans Informer Autrement, en dehors des pages, le podcast qui prolonge l'exposition Informer Autrement, le Paris des MOOC. Parce qu'une exposition, c'est bien, mais il y a des choses qu'on ne peut pas mettre derrière une vitre. Les voix, les choix éditoriaux, les doutes et envies, et l'histoire derrière les MOOC. Avec Annie et Emeline, on vous emmène à la rencontre de ceux qui les créent. Commençons par l'édition Bouclard, avec Benjamin Réverdi.
On a cofondé à la base une maison d'édition donc en 2018 à trois, donc Clément Le Priol, Thierry Fétivaud et moi-même. On avait créé un collectif sous forme associative qui réfléchissait un peu aux formes du livre, donc les couvertures, les objets livres, les revues et tout ça, qui a créé un certain nombre d'événements sur Nantes en 2015-2016. Et puis en 2017, on a commencé à échanger informellement sur le fait de créer notre propre structure lucrative, on va dire. C'est pas forcément le bon mot, mais en tout cas qui ne serait plus associative, qui serait vraiment une entreprise avec nous trois au capital. On s'est dit à ce moment-là, c'est qu'il serait intéressant de créer une revue un peu comme terrain de jeu. Des prémices de la maison d'édition avant de faire des livres. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé à réfléchir au premier numéro de la revue qui a paru en 2018.
Quel est le rôle du graphisme, de l'illustration dans votre revue, notamment comme on la voit en couverture ?
On est allé chercher un peu dans les choses qu'on aimait bien, donc avec un regard très anglo-saxon. On est assez friand d'un certain nombre de revues américaines ou de magazines, je pense au New Yorker, de Billy Burr, qui est une revue un peu de création, un peu décalée, qui a un temps été reprise et diffusée en France par les éditions Inculte. Et ce qui revenait assez souvent... Voilà ce qu'on appréciait, c'était que les couvertures étaient illustrées, notamment dans le New Yorker. D'ailleurs, le numéro 3 de la revue, le personnage qu'on voit sur la couverture est clairement inspiré du personnage un peu totem du New Yorker. Et voilà, on s'est dit qu'on allait faire une couverture illustrée qui permettrait de faire une approche un peu de revue littéraire, un peu plus décontractée de ce à quoi on pouvait être confronté, puisque encore aujourd'hui, hein, les revues littéraires sont assez froides. Si on prend un peu les classiques, la revue de la NRF, même Livre Hebdo, qui sont des revues spécialisées, c'est vraiment pas notre cam graphiquement, donc ça a un peu fixé ce qu'on voulait sur les couvertures avec ces illustrations. Nous, ce qui nous intéresse hein, depuis le départ, et c'était vraiment le départ de la revue aussi de ce point de vue-là, c'était de mélanger le fond et la forme. En fait, pour nous, le fond et la forme sont quasiment au même niveau. On défend les textes et on défend dans la revue de décortiquer et d'aborder un peu la littérature sous des regards et des prismes un peu différents. Mais pour nous, la forme aussi va permettre de révéler le fond. Il y a un style, quoi, il y a une patte, Bouclard. Et c'est aussi l'association qui fait ça entre nous trois. Donc Clément, lui, est assistant d'édition, il travaille dans l'édition pour plein de maisons. Donc c'est vraiment celui qui s'occupe de... réfléchir pas mal avec moi sur les formes, sur le choix des textes, sur l'aspect éditorial. C'est lui qui fait les mises en page, qui est très carré dans la mise en page. Et Thierry, donc, qui est typographe, lui, sa particularité vraiment, c'est qu'il dessine des polices de caractère. Et ce qui fait notre marque de fabrique aussi, c'est la mise en scène du texte. Dans la revue, c'est notre police de caractère qui s'appelle la Bouclard. Et ça, je pense qu'il y a peu de maisons aussi qui ont, dès le départ, imaginé de rentrer vraiment dans le détail de la forme en travaillant sur leur propre lettrage. Ça montre à quel point, pour nous, tout ça est très fusionné, quoi.
Les MOOC sont réputés coûteux à produire. Qu'en est-il pour une revue littéraire comme la vôtre ?
Évidemment. On va dire qu'on est sur un marché un peu de niche. La revue n'est pas le truc qui se vend le plus facilement, notamment en librairie. Même si nous, au tout départ, on a commencé en vendant en ligne, en salon et en autodiffusion distribution. Puis à partir de 2021, on a pu avoir un diffuseur distributeur qui a permis d'ouvrir. Je pense qu'au départ, on était autour de 70 points de vente. Aujourd'hui, on doit être à 300-400, voire peut-être un peu plus. Et puis aussi la possibilité de commander en librairie et de se faire livrer. Donc ça, effectivement, ça a permis d'équilibrer un peu plus la revue sur le long terme. Après, on va dire qu'une revue qui est vendue 10 euros nous coûte à peu près pas loin de 5 000 euros, sans compter notre rémunération. C'est-à-dire que, en gros, l'économie d'une revue, c'est à peu près, en termes de contenu, c'est-à-dire rémunération des auteurs, autrices qui font les longs articles, plus des cartes blanches, on est autour de 2 000 euros, c'est-à-dire les petits formats qui sont entre chaque article long, plus l'achat parfois d'iconographie, plus la correction. Donc on va dire autour de 2 000 euros sur le contenu, autour de 500 euros sur la correction, autour de 1 500 euros d'impression, plus les frais annexes, on est autour de 5 000 euros. C'est pas rentable du tout. On a quasiment eu pour chaque numéro des subventions, soit de la région Pays de la Loire, soit du CNL. Ce qui a permis en fait d'équilibrer la parution de la revue et de pouvoir générer un peu de bénéfice.
Quel rôle joue aujourd'hui un éditeur comme vous dans la survie de ces objets?
Je pense qu'on on fait partie des structures qui permettent que ça existe, que ça continue à exister. Que ça soit une richesse aussi éditoriale, et qui ça fait partie d'un processus éditorial. Donc je pense que quelque part, c'est aussi une façon, à un moment donné, de participer à la vitalité du MOOC comme vraiment une première étape éditoriale, chercher des formes, réfléchir à d'autres façons de les faire. Donc je pense que pour nous, c'est une étape, on va dire. Donc je dirais pas qu'on participe pas, enfin, j'aurais pas cette prétention de dire qu'on participe à la vitalité des MOOC.
Avec la multiplication des contenus en ligne, comment un MOOC peut-il rester attractif aujourd'hui?
Nous, on fait des livres, on fait des objets, quoi. On fait vraiment des objets et on s'inquiète pas trop du côté digital. Moi, je viens d'un secteur, je travaillais dans la musique pendant longtemps, puis depuis quelques années, on revient à l'objet tangible. Je pense au vinyle, par exemple. Pour des raisons familiales, via ma fille qui a 14 ans, je m'intéresse un peu à la K-pop. Et vous pouvez regarder aujourd'hui ce qui se produit en termes de K-pop, en termes d'objets matériels, notamment les disques. À l'intérieur, voilà, ça fait presque un MOOC. Il y a des magazines, et puis le disque, c'est un élément en plus, quoi. Et moi, j'ai cette vision globale où je pense que le digital, le numérique, ça existe. Mais on a besoin d'objets physiques et encore des gens qui vont en librairie, fort heureusement. On s'est beaucoup moins digitalisé qu'ont pu le faire les États-Unis, où très vite le livre numérique a pris une part de marché conséquente, je pense autour de 20%. Aujourd'hui en France, le côté numérique, ça doit être 3-4%. Je n'ai pas les derniers chiffres, mais de mémoire, il y a 2 ans, c'était 3-4% de livres numériques.
Où voyez-vous Bouclard dans 5 ans? Avez-vous des projets d'avenir?
Le futur de Bouclard, c'est vraiment être juste dans ce qu'on publie, juste dans le fond et dans la forme, de se donner du temps. Alors, pourquoi on peut se le permettre aujourd'hui? C'est qu'en fait, nous, en parallèle de la maison d'édition, on a une agence qui s'appelle Yokna. Donc, on fait des livres pour des cabinets d'architectes, pour d'autres maisons d'édition, et on va jusqu'à l'aspect promotion. Moi, je prends en charge la promotion en librairie et auprès de la presse. Pour un certain nombre de maisons d'édition, je fais des sites internet pour des maisons d'édition avec de la vente en ligne. Donc en fait, on s'est spécialisé un peu à 360 degrés comme une agence conseil autour de l'édition et du livre.
Merci Benjamin Reverdy pour votre temps et merci à Bouclard. Et maintenant, Emeline va nous parler de L'éléphant, un MOOC axé sur la culture et la mémoire, accompagné de Guénaëlle Le Saulleux, sa cofondatrice.
Alors pour commencer, est-ce que le MOOC incarne une forme de slow journalism? Est-ce que c'est un indispensable aujourd'hui?
Bah, clairement, ils sont apparus, je dirais, il y a une quinzaine d'années. En France, je pense que c'est 21 qui était le premier à apparaître, justement à un moment où le numérique commençait à prendre pas mal de place, notamment dans l'information et dans l'information en temps réel, et où Alors je dis avant parce que les choses ont quand même changé, où maintenant les gens commencent à s'habituer à payer pour avoir de l'information, mais à un moment où l'information était totalement gratuite, où on avait à peu près la même information partout, c'était une information immédiate, et où les gens avaient l'impression de lire un peu la même chose partout et sans aller vraiment au fond des choses. Et donc il y a eu un besoin, bah, c'est une réaction, enfin il y a toujours un effet de balancier, d'avoir besoin de s'informer autrement, de prendre le temps de lire, de pas lire forcément la même chose que ce qu'il y avait ailleurs, d'explorer aussi peut-être de nouveaux champs. Et voilà, et en prenant le temps, à la fois le temps de la lecture, c'est-à-dire faire une pause dans une vie où tout va très vite, et puis le temps d'aller au fond des choses, de remonter à la source de certains phénomènes, d'avoir plus d'explications, d'avoir plus d'intervenants au terme d'un tour d'un sujet. Donc voilà, c'est apparu comme ça il y a déjà un moment, et après, ça s'est, ben voilà, ça s'est développé. Enfin, les MOOC correspondent à des besoins assez particuliers de lecteurs très différents, puisque vous avez des MOOC sur des sujets très différents, et donc on peut considérer qu'effectivement, aujourd'hui, ils s'adressent à un public qui a besoin ou envie de prendre le temps d'aller un peu plus au fond des choses sur des sujets qui les intéressent. Et ce n'est pas une alternative. Disons que c'est un complément à ce qui est aujourd'hui l'accès en ligne facile et rapide à toute l'information.
Quel est le public de l'éléphant? Êtes-vous surprise des lecteurs et lectrices qui vous suivent?
Quand on a lancé l'éléphant, donc il va avoir 13 ans en janvier, on s'était dit, bon, le sujet culture générale plus le sujet mémoire, hein, puisque ça s'appelle l'éléphant parce que ça travaille, l'idée c'est de travailler sur la mémoire, pour la mémoire d'éléphant, on se disait, oh là là, ça va être que des vieux qui vont nous lire, en gros que les gens que ces sujets intéressent. Donc enfin, quand je dis que des vieux, on se disait les plus de 50, 55 ans. Et en fait, on s'est rendu compte assez rapidement, on était assez étonnés de voir que c'était des sujets qui intéressait aussi beaucoup les jeunes. D'abord parce que on est lu dans des lycées. Enfin, pas mal de CDI sont abonnés parce qu'on a des sujets qui sont, bah, des sujets, je sais pas, en littérature ou en histoire, qui sont des sujets du bac. Idem pour les étudiants qui peuvent trouver dans nos contenus des choses qui les intéressent, soit par rapport aux études qu'ils suivent, soit par rapport à des projets, je sais pas, de concours ou d'exposés qui les intéressent. Ensuite, on s'est rendu compte qu'on avait un gros paquet de lecteurs chez les jeunes travailleurs, je dirais, c'est-à-dire les gens qui commencent, je dirais les 25-35, qui commencent dans la vie professionnelle. Et puis qui se disent, bah tiens, je reviendrai bien à des choses que j'ai pu apprendre mais que j'ai complètement oubliées, je reviendrai bien sur des sujets qui ont pu me plaire. Et puis bien sûr, bah, on a des gens qui ont pour le coup plus de temps pour lire, qui peuvent être les retraités. Donc en fait, on n'a pas un lecteur type, à la différence de beaucoup de magazines où de manière générale le marketing cherche une cible très particulière en termes d'âge, en termes de homme-femme, en termes de géographie. Alors nous, on est un peu l'anti-marketing, puisque nos lecteurs, en blaguant, on dit de 17 à 97 ans, c'est-à-dire à partir du lycée, on va dire, surtout à partir de la première où il y a le bac français en ligne de mire, et puis jusqu'à des gens très âgés. Et ce qui fait que, je le dis, ça a l'air une plaisanterie, mais il nous est arrivé d'avoir des gens qui nous disaient que dans une même famille, il y avait trois générations qui lisaient l'éléphant. Donc ils avaient deux abonnements, ils se partageaient. Donc il y avait les jeunes qui étaient au lycée ou faisaient leurs études, leurs parents qui avaient, je sais pas, une cinquantaine, 40 ou 50 ans, et puis les grands-parents.
Le MOOC reste un objet coûteux à produire. Quelle est votre stratégie, modèle économique? Et justement, est-ce que ce modèle est à la fois une force et une faiblesse?
Il est très simple, c'est qu'on vit grâce à nos lecteurs. Donc nos frais sont couverts par les achats. On n'a pas de pub, ou quasiment pas de pub. On a parfois une page ou deux pages de pub. Donc clairement, et puis on ne les vend pas extrêmement cher. Donc c'est clairement pas la pub qui nous fait vivre. On est une petite maison d'édition, donc on n'a pas un gros actionnaire derrière qui nous met de l'argent si on en a besoin. On est vraiment une maison indépendante, on est de la presse indépendante. Et donc on vit des achats au numéro et des abonnements payés par les lecteurs.
Et pour terminer, comment voyez-vous l'évolution de l'éléphant dans les prochaines années, notamment avec la multiplication des contenus en ligne? Comment un MOOC peut rester attractif à l'ère du numérique?
Nous, ce que je dirais, c'est que on fait un choix. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent oui, mais par exemple, un sujet sur Victor Hugo, par exemple, sur Wikipédia, on a tout ce qu'on veut sur Victor Hugo. Alors nous, on fait un choix, c'est-à-dire que c'est comme une carte que l'on propose au lecteur. Et ces choix que l'on fait, et ces choix d'auteur aussi que l'on fait, qui sont des auteurs légitimes qui connaissent leur sujet, qui ont une écriture assez littéraire. On fait une offre dont on se dit qu'elle nous est propre et c'est ça que les gens viennent chercher. C'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait se dire mais pourquoi acheter l'éléphant pour lire un article sur Aristote alors que si je vais sur Wikipédia ou plein de sites gratuits, je vais trouver un sujet sur Aristote. Je pense que voilà, ça fait 13 ans qu'on existe. Les gens nous achètent précisément parce qu'il y a quelque chose qui est différent de ce qu'ils trouvent ailleurs. Et c'est vraiment ça, cette singularité, cette particularité qui est propre à chaque MOOC. C'est ça que les gens viennent chercher et c'est ça que les gens sont prêts à payer. C'est-à-dire une offre définie qui leur est proposée. C'est un choix qu'on fait pour eux, qu'on met en scène. Nous, en plus, on a des jeux, on a tout un appareil de texte aussi avec nos puces, nos jeux, ce qu'on appelle la page complément à la fin pour retenir, c'est-à-dire des résumés, etc. Donc, on a tout un appareil, pas critique, mais disons d'apprentissage, je dirais, ou en tout cas de mémorisation, qui fait que les lecteurs vont trouver chez nous ce qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Alors après, est-ce que c'est quelque chose qui va durer longtemps? Je croise les doigts et je l'espère, mais on ne peut jamais prévoir ce que sera l'avenir. Donc nous, on s'est beaucoup développé à la faveur du confinement, on avait fait une offre purement numérique. Là, on est en train de changer pour avoir une liseuse beaucoup mieux que celle que l'on avait avant. Donc voilà, on essaie de se développer beaucoup sur le numérique, sur nos contenus propres, pour avoir un support différent. Et puis, on interroge aussi nos lecteurs de temps en temps pour savoir ce qu'ils aiment, ce qui les intéresse, pour pas passer à côté de quelque chose, quoi. Mais bah, c'est toujours un pari. Et puis, les lecteurs évolue, l'environnement évolue, donc il faut essayer à la fois de s'adapter mais sans perdre son âme. Donc on bouleversera pas ce qu'est l'éléphant aujourd'hui. On fait parfois des petits aménagements et puis on espère qu'on continuera de trouver nos lecteurs.
Merci Emeline et merci à Guénaëlle Le Soleux, cofondatrice de l'éléphant, pour son temps et ses réponses. Place à la revue Profane avec Annie.
La revue Profane est une revue qui donne la parole à celles et ceux qui questionnent le quotidien et inventent d'autres récits. Place maintenant à l'interview de Karine Soyeux, rédactrice en chef, pour en savoir un peu plus sur la revue Profane.
Alors Profane, c'est une revue qui s'intéresse à la figure de l'amateur. C'est une notion qui est souvent assez mal considérée, déconsidérée, et on a voulu revenir à la racine de ce qu'est l'amateur, c'est-à-dire celui qui aime. Et on estimait que c'était un bon ancrage pour commencer une revue, c'est-à-dire s'intéresser aux gens qui ont des affections, des passions, des désirs, des volontés en termes de création ou en termes de collection, parce qu'on s'intéresse et aux artistes amateurs et aux collectionneurs qui, eux, amasser l'objet de leur affection. Et donc on a un peu ces deux polarités à l'intérieur de la revue. Donc on s'intéressait aux artistes autodidactes et aux collectionneurs de bizarreries, de choses ordinaires, un peu incongrues, mais qui pour nous font preuve aussi d'une certaine humanité.
Qu'est-ce qui, selon vous, rend Profane différent des autres revues MOOCs?
En fait, on n'est pas axé sur une discipline. Alors, certes, on se présente souvent comme une revue d'art amateur, mais on n'est pas là pour faire un focus sur une discipline artistique, mais plutôt pour être comme un objet de curiosité qui va aller un peu s'intéresser à plein de pratiques différentes, individuelles ou collectives. Et essayer de les mettre en lumière. Ce sont des pratiques qui sont souvent très peu visibles. Ce sont des gens qui ont comme ça une pratique un peu personnelle, rarement montrée. Et nous, on se dit qu'il y a un intérêt à lui donner plus de visibilité pour aussi donner un autre regard sur le monde contemporain et le monde de l'art et le monde un peu de ce qu'est être, avoir un plaisir qu'on va mener à bien, qu'on va développer et qui est loin des scènes visibles et des vitrines qu'on a l'habitude de voir.
Comment choisissez-vous les artistes, auteurs et photographes que vous publiez?
Alors en fait, il y a deux choses, c'est-à-dire que nous, on va vers des gens qui sont peu visibles, comme je vous l'ai dit. C'est-à-dire que Profane fonctionne beaucoup sur le bouche à oreille. Quelqu'un va nous dire, tiens, je connais, j'ai un cousin dans telle région de France qui travaille le bois de telle manière dans son garage. Et on va aller, on va s'y intéresser, voir si ça peut faire l'objet d'un sujet. Ou alors un collectionneur d'objets du quotidien, de costumes de cirque, par exemple. Pareil, toutes ces choses un peu faites de manière... qui sont des objets un peu d'affection, on va aller les voir. Donc ça, c'est pas, on fonctionne avec aucun attaché de presse ou aucun service de presse ou agence de presse. C'est nous qui allons à la rencontre des gens. Et à côté de ça, on travaille aussi avec des artistes et des photographes à qui on va demander de mettre en lumière, c'est-à-dire de faire le sujet visuellement autour de ces gens inconnus. Voilà, donc on met des professionnels au service des amateurs.
Profane est indépendant. Qu'est-ce que cela implique au quotidien ? Liberté ou fragilité ?
Un peu les deux, vous le dites bien. C'est une grande liberté parce que c'est nous qui décidons de tout ce qui va être présenté dans la revue. Il n'y a aucun autre désir que celui-là et aucun autre veto puisqu'on est associé à aucune autre, aucun groupe de presse en fait. Hein. Mais le corollaire, c'est qu'il y a certes une fragilité budgétaire, financière. Voilà, on est toujours un peu à la recherche de partenaires. Et ça, c'est la complexité d'un projet comme celui-là, quoi. Mais bon, on se dit que là, on fêtera le 21e numéro et que c'est déjà en soi 10 ans de travail éditorial et de sortie. Donc, on est quand même assez heureux déjà d'avoir tenu sur un terme aussi long, ce qui n'est pas le cas de tous les magazines ou revues qui, au bout de 3-4 numéros, souvent, ou peut-être un peu plus, s'épuisent parce que voilà, il faut tenir dans une économie qui est très précaire.
Quel est aujourd'hui votre plus grand défi ?
De continuer à la faire vivre et surtout de la faire vivre aussi hors du papier. C'est-à-dire que nous, ce qu'on recherche de plus en plus, c'est de créer une espèce d'amicale profane, de réseau, d'ouvrir, de faire. On fait des expositions, on fait des événements. On essaye justement de montrer que c'est certes une revue papier, mais qu'elle peut aussi se déployer dans l'espace. Et ça nous permet aussi d'attirer de nouveaux regards, nouveaux collaborateurs, nouveaux mécènes aussi. Enfin voilà, ça c'est notre plus grand défi, c'est de la faire vivre.
Votre rythme de publication, lent, donc 2 numéros par an, est-il un choix artistique ou une contrainte économique ?
Profane, c'est né le désir de personnes qui ont par ailleurs aussi des activités. C'est-à-dire qu'on fait un objet qui concerne les amateurs, mais on le fait presque aussi en qualité d'amateur. Même si moi, je viens du journalisme culturel, aujourd'hui, je suis attachée à aucune autre rédaction que celle de Profane, et j'en suis très heureuse. Mais à côté de ça, les cofondateurs de la revue, qui sont aussi directeurs de publication, ont une autre activité professionnelle. Donc 6 mois, c'est le temps qu'il nous faut pour faire un numéro à côté de nos activités respectives. Donc c'est une forme de contrainte, mais c'est aussi une énorme respiration dans nos vies professionnelles. Voilà. Et parce que aussi on est une très petite structure, on n'aurait pas ni le temps, ni les épaules pour porter une revue de ce type sur une régularité plus... Enfin, sur un temps plus court, quoi, vous voyez. On ne pourrait pas être un trimestriel ou un mensuel. Ce serait déjà, en soi, professionnaliser la revue, en fait.
Quels sont aujourd'hui les plus grands obstacles économiques pour faire vivre la revue ?
Obstacle, c'est faut trouver des sous, quoi. Enfin, c'est toujours le même objectif. Et nous, on a quelques mécènes, mais c'est à chaque fois remis sur l'ouvrage à chaque numéro. Il faut les convaincre. Et on ne dépend pas de subventions, d'autres possibilités de financement pour des raisons qui sont de logique, de cases, j'ai envie de dire. On ne rentre pas dans des cases qui sont définies, en fait. Donc on se heurte à des problématiques de, euh, de c'est ça, d'étiquetage en fait. On est un objet un peu hybride qui, si on a par exemple une pub qui vient d'une grande maison de luxe, on ne peut pas bénéficier de subventions par ailleurs. Mais sans cette aide, eh ben, on ne pourrait pas faire la revue. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue en fait.
Enfin, pensez-vous que les MOOCs peuvent encore grandir économiquement ou resteront-ils des objets de niche ?
C'est un peu le problème, comment dire, de toutes les... C'est valable pour toutes les disciplines. Hein. Il y aura toujours une forme de cinéma, d'art et d'essai, et puis des blockbusters. Hein. Je veux dire, c'est la logique de projet qui veut ça. C'est, voilà, on sera toujours dans cette dynamique-là, je pense, en fait. Et que les revues vivent, par ailleurs, à côté de grands groupes de presse... bah, ce sera un peu toujours la même, je pense, la même ambivalence ou la même, voilà, on peut pas être tous grands, on peut pas être tous petits, c'est des équilibres à trouver.
Qu'est-ce qui, selon vous, rend Profane différent des autres revues MOOCs ?
D'être un objet un peu à part, de s'être éloigné du champ de l'actualité, de fonctionner différemment, de montrer des créations, des productions qui ne sont pas montrées ailleurs. Hein. C'est-à-dire que, voilà, c'est d'être comme un objet de curiosité, en fait. D'offrir au regard ce qu'on ne voit pas dans d'autres magazines qui relatent tous une même actualité. Voilà, c'est de faire un petit pas de côté et proposer d'autres formats, quoi.
Vous pensez que le papier d'auteur peut encore durer dans un monde numérique ?
Oui, je pense que les outils ne se remplacent pas. Peut-être qu'ils vivent ensemble, ils s'apportent d'autres choses, mais ça fait tellement longtemps qu'on dit que le papier, la presse papier va disparaître. À la fois, elle n'est pas en très bonne santé, certes, mais elle est aussi un autre rapport au monde, un autre rapport au temps, un autre rapport... voilà, c'est quelque chose qu'on a chez soi, qu'on peut feuilleter quand on en a envie. Ce n'est pas une injonction à être... sur un écran, voilà, c'est autre chose. Et je pense que, pour moi, ça continuera à perdurer, quoi. Même si ça peut coexister avec des développements numériques, par ailleurs.
Enfin, pensez-vous que les MOOCs peuvent encore grandir économiquement ou resteront-ils des objets de niche ?
Ah, c'est un peu ce que je vous disais, c'est-à-dire sortir du papier pour aller dans des espaces, que ce soit des espaces d'exposition ou pas... aller vers les gens. On aimerait développer des ateliers profanes pour montrer aussi toute la dynamique, la vigueur d'un art qui n'est pas qui n'est pas muséal, par exemple. Voilà, ça peut prendre plein de formes. On a plein d'envies de ce type, en fait. Mais bon, tout ça, encore, il faut du temps, il faut des moyens. Donc, pour le moment, on a réussi à développer plus la partie profane s'expose. Mais d'autres parties, peut-être plus, conférences ou ateliers, c'est à travailler. Mais ce serait aussi un désir. Parler d'objets de curiosité, ça me semble important. Rester dans une espèce de fraîcheur, d'esprit buissonnier, des fricheurs, de nouvelles choses, ça me semble aussi important dans l'ADN de la revue. Et nous lançons le Profane 21 hein, pour 6 mois. Donc, on invite tous les curieux à nous rejoindre.
Merci Annie et merci aussi à Karine Soyer pour cette interview. Merci Bouclard, L'Éléphant, la revue Profane. Le MOOC n'a pas une seule forme ni un seul style, c'est un espace libre où l'on peut raconter autrement. Merci de nous avoir écoutés dans Informer Autrement en dehors des pages. Vous pouvez retrouver désormais l'intégralité de l'exposition en e-musée. Merci Emeline et merci Annie.
Merci Manon.